Salut à tous, bienvenue à Radio Galère. Aujourd'hui, c'est notre reprise de notre émission En quête d'un cinéma. On va se retrouver avec un invité. Et c'est notre entrée. Salut à tous, ça y est, on se retrouve ce soir à nouveau Radio Galère. On vous souhaite une bonne rentrée aussi à tous. Et donc ce soir on va aborder quelque chose qu'on a déjà abordé dans le passé, mais on revient dessus. On est ce soir avec Lotivol, avec Jean-Marie, pour une émission consacrée à des lectures autour de Fernand Deligny. Alors Fernand Deligny, c'est un personnage qui nous intéresse à plein d'égards. Notamment, on avait dans le cadre de la semaine asymétrique à Marseille novembre 2011 dernier, fait des lectures des textes de Deligny. Ce soir, on se propose de réécouter certains des passages de ces lectures et puis d'en profiter de les commenter en présence de Jean-Marie qui récemment a fait un film. Et on pourra en parler aussi avec Lo, avec moi notamment. Et Lo, peut-être que tu veux dire quelque chose là-dessus ? Je vais
présenter un petit peu, juste dire quelques mots sur Fernand Deligny. C'était qui ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors nous, vu qu'on se positionne en tant que cinéaste, on connaît plus son histoire de cinéma, qui est surtout connue avec son film Le Moindre Geste, qui est son seul film, et c'est pas que son film, c'est une histoire assez intéressante. Une sorte de film un peu collectif. Je sais pas si le volume est assez fort, Fab. Ça va, la modulation? Bon.
Moi, je pense.
Le Moindre Geste, qui a eu une histoire... Il y aurait beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, on en a fait une émission, si vous voulez plus en savoir, sur l'histoire du Moindre Geste, qui a été mis en image par Jean-Pierre Daniel. On a fait une émission, je sais plus, c'était en février ou janvier de cette année, qui est en lien sur dérive.tv. Après, qu'est-ce qu'on peut dire sur Deligny ? Donc voilà, il a fait un, deux ou trois films. Il a beaucoup écrit des textes, de très beaux textes, qui sont réunis dans une édition qui s'appelle L'Arachnéa. Il y a deux, trois bouquins qui sont sortis. C'est, je sais plus son nom, Sandra. Elle va.
Ouais, j'ai plus son.
T'as plus son nom non plus. Donc voilà où il y a tous ces textes. Et puis je pense que là où il est peut-être le moins connu dans son expérience, mais où c'est, je trouve que c'est là où c'est sa plus grande force, c'est sa, la manière dont il a vécu dans un coin, dans les Cévennes, ça s'appelle le village, c'est la soirée des trous, le village dans les Cévennes, près d'Anduze, à Quinsborne. Il a vécu pendant 20 ans dans une certaine, on va dire un peu isolé, avec des enfants autistes, avec des gens qu'on pourrait dénommer, parce qu'il faut toujours dénommer, nommer, catégoriser, des gens où ça n'a pas marché dans la société. Alors on va dire des anciens boulangers, des anciens éducateurs spécialisés, et ils ont vécu une histoire ensemble qui a duré 20 ans avec des enfants autistes, et où ils partageaient un quotidien total.
Alors c'est ça, hein. C'est Deligny commence dans les années 50 à travailler avec des jeunes en grande difficulté, et il s'intéresse effectivement
en tant qu'éducateur, ouais.
En tant qu'éducateur, mais alors en tant qu'éducateur qui s'est éloigné des institutions pour essayer de trouver d'autres approches en fait, dans le principe des institutions ne lui convenait pas, puisqu'il y avait cette idée d'enfermement, etc., qui fuyait. Donc en fait, dans les années 60, il s'intéresse plus particulièrement au travail avec, comme tu le disais, Lo, avec des enfants autistes. Alors la raison pour laquelle il s'intéresse aux autistes, il y en a plusieurs, mais en tous les cas, ce qui nous intéresse nous ce soir, c'est d'y voir le lien avec le cinéma. Alors pourquoi Deligny s'intéresse à la fois aux autistes et à la fois au cinéma, c'est que pour faire très court, on vous invite à soit d'écouter l'émission autour du moindre geste qu'on a fait, comme le disait Lo, ou soit d'aller visiter le site de Dérive où il y a beaucoup de liens sur Fernand Deligny qui sont des liens vers déjà des écoutes ou des textes qui sont absolument passionnants. En tous les cas, il s'intéresse au cinéma parce que il dit dans ses textes que pour lui l'image est autiste, c'est-à-dire qu'elle ne parle pas, contrairement à l'idée reçue qu'on a du cinéma. Pour lui, l'image ne parle pas, et pour expliquer ce propos-là, il en va par passer par une histoire dans laquelle il fait recours à l'animal, en fait, et en l'occurrence par n'importe quel animal, puisqu'il s'agit des oies. Et pourquoi il en passe par les oies pour expliquer que l'image est autiste, c'est que quelque part il explique que ces images, au même titre que les oies, ces images sont gavées. Alors elles sont pas gavées de grains, mais elles sont gavées de sens, elles sont gavées de signes, et ce gavage à outrance de sens dont seraient chargées les images, et dans lesquels, en général, ou la plupart du temps, les cinéastes ou réalisateurs se fourvoieraient quelque part à gaver ces images de sens, empêcheraient d'y voir ce que lui appelle le cinéma, c'est-à-dire un cinéma libre, dégagé de sens, en tous les cas dégagé du poids du langage. Le moindre geste, c'est une tentative de réponse à cela. En tous les cas, le parallèle entre les enfants autistes qui sont dans une absence de langage, une absence de signes, n'en sont pas moins des êtres humains pensants et agissant pleinement dans la vie. Alors, bon, cette théorie, en tous les cas, cette approche, elle est protéiforme, elle est très complète, très intéressante. Et ce que je vous propose, c'est de peut-être dans cette première lecture, de découvrir justement, dans un texte de Deligny, cette histoire de doigts sauvages, doigts domestiques, et on se retrouve juste après pour en commenter, éventuellement en discuter entre nous.
J'ai dit, c'est la guerre. Il a haussé les épaules. Intention, le fait de se proposer un certain but. Voyez-vous ça, les oies se proposent de s'envoler. Ce pronom personnel réfléchi, tout y est. Le nom ou non substitut, personnel évidemment, est réfléchi. On se voit à quel point les oies sauvages nous sont semblables. C'est ce que je dis aux preneurs d'images. Si jamais il vous arrive d'avoir des oies sauvages à portée de caméra, vous avez une intention. Et ce qui va se voir sur l'écran, c'est votre intention et non les oies sauvages, qui ne sont pas prétexte à faire part de vos intentions. Alors que nous étions quelques-uns autour d'une caméra à filmer, comme on dit, et peu importe quoi, là c'est le moindre geste, nous faisions très attention à ce que notre ombre ne se voit pas sur l'aire de tournage. C'est là un avatar facile à éviter. Reste l'intention qui, de même, se projette aussi insolite que l'ombre dénonçant sur l'écran que nous y sommes, à pied d'œuvre. Or, si ceux qui regardent l'écran supportent mal cette inadvertance qui nous dénonce, nous étant ceux qui sont là, et tout en chacun sans doute, et en même temps tout à fait certain, qu'un certain nous s'y trouve, l'intention déterminante. Alors que l'ombre ne l'est pas, elle n'est que superflue, va pour ainsi dire de soi, est une convention admise, et elle ne se voit pas du tout, elle manque, et que ça veut dire, ça étant le film projeté, ne veut rien dire. Et tout un chacun affligé de cette débandade, de cette débauche d'images aberrantes qui défile et semble avoir été prise pour narguer, ce qui peut irriter, mais au moins intention il y a. Et c'est bien l'essentiel. Mais à propos des oies, si celui qui en parle se veut scientifique, il nous parlera d'intention à propos du hochement d'ailes, ce qui ne veut rien dire, mais nous livre au moins les intentions de l'observateur, ce qui est fort réconfortant pour le tout un chacun. Il vous dira peut-être qu'intention n'est pas tout à fait le mot qu'il faudrait, mais parler n'est que de parler. Et même si l'observateur est resté accroupi ou couché à la limite de l'air d'existence des oies, se rendant invisible ou quasiment à force de patience et d'immobilité, quand il va nous en parler, c'est de parler qu'il parlera, et non des oies. Le moindre mot étant saugrenu, abusif, incongru, incorrect, approximatif, et tout ce qu'on voudra qui évoque son incapacité. Or, c'est ce que je dis aux preneurs d'images. Je ne vois aucune différence entre les oies et les images. S'agit-il de les prendre ? Une oie prise n'est plus une oie. C'est un volatile, éventuellement comestible et domesticable à souhait, quitte à en perdre son aspect et sa vigueur. Il est fort courant qu'on les engraisse, quitte à en donner la nourriture de force. L'homme que nous sommes a une habitude fort ancienne de cette pratique qui est torture. Et il n'y a aucune raison de penser que les images soient quittes de cette pratique qui affuble l'espèce domestique, domestiquée des caractéristiques que nous connaissons bien, à voir les animaux familiers. Pour les oies, il s'agit de les entonner, et c'est cet infinitif et le même quand il s'agit de commencer un chant. Ceci dit, il est vrai que les images sont chargées d'être significatives. Chargées, c'est peu dire, surchargées, gavées de signification, et alors elles se traînent, lourdes de sens, grasses de symboles, saturées des intentions grossièrement allusives qui passent, comme on dit sur l'écran. Elles en sont malades, ce dont tout un chacun se réjouit d'avance. Que passe dans le ciel un vol d'oies sauvages, et les oies qui se traînent battent des ailes et tendent le cou désespérément, hantées par une frénésie fugace. Le preneur d'images pense cinéma depuis 10 ou 15 ans. Penser cinéma, ça se dit que le cinéma est un langage. Ça peut se dire, et d'ailleurs tout se dit, et peu importe ce que ça veut dire. Le tout un chacun prenant de ce qui se dit la part qui lui revient, sans trop savoir d'où vient ce dont il nourrit sa pensée. Or, c'est là ce qui me tracasse. Non pas ce qui se dit, mais d'où ça peut venir. Du vent, s'il vient de l'Est, je pense à l'Oural, d'Ouest, c'est d'Atlantique qui vient et d'Amérique. Du Nord, c'est de la banquise, du Sud, la Méditerranée, et par-delà, le désert et tout ce qu'on voudra. Du par-delà, ce qui serait quelque peu vrai si le vent nous soufflait carat de terre. Quelquefois, ce que j'ai dit me revient. Ces oies me reviennent. Pourquoi dit-on des oies sauvages ? Il y a des oies dont bon nombre sont domestiquées. Toutes les oies sont domestiques, quasiment. Ce qui peut faire penser que, peu importe celles qui ne le sont pas, quantité négligeable, ainsi, sinon infime. Or, quelle que soit l'importance du lot désigné par quasiment, c'est en réalité une mine inépuisable, mine d'ailleurs scellée, obturée comme anéantie. Il se trouve que cette mine du quasiment est éliminée. Ce qui peut s'y déceler révèle d'un antérieur révolu. Mal appris, comme on dit, du sourd qu'il est malentendant, car il est entendu que ce qui échappe à l'entendement risque fort d'être présumé mal. Rien de plus simple qu'un mot, surtout quand il est simple. Mal, c'est ce qui fait douleur, qui est nocif, et c'est ce qui manque.
Bien, ben retour dans le... dans le studio, donc pour réagir avec les propos, en tout cas la lecture de Jean-Pierre Daniel, qui, il faut le rappeler, donc a mis en film, comme tu disais, le moindre geste. Donc est-ce que...
Alors, es-tu une oie sauvage, Fabrice? Ben écoute, ouais, on va essayer de parler un peu autour de ce qu'on vient d'entendre, sans trop de prétention, parce que c'est quand même... quand même ardu, et puis en essayant non plus de pas trop synthétiser ou revenir dans des choses binaires, ce qui est aussi pas évident. Ben, je sais pas, moi, en tant que faiseur d'images, on va dire, comme dit Deligny, des gens qui, c'est un très beau terme, caméré aussi d'ailleurs, hein, c'est vrai, on dit caméré, c'est aussi un très beau mot. Ben, ce qui me fait écho, c'est oui, c'est cette question de... J'essaie de comprendre ce qu'il veut dire par la question de l'image autiste. Alors, ce que je crois comprendre par là, c'est que le fait qu'on met beaucoup d'intention sur le fait de filmer quelque chose, finalement, dans ce qu'on voit, c'est les intentions qu'on y a mis, mais pas ce qu'on a filmé, quoi. il y a quelque chose qui, que je retiens qui est de ce registre-là. C'est-à-dire, dit d'une autre manière, ça serait la question que les intentions écrasent beaucoup les choses. Ce qui veut, moi, d'ailleurs, comme à la place de la question, Fabrice, arrête d'essayer de lire tes citations que t'as écrites, ça devient, tu ne me regardes même pas. Dans ce que je voulais te dire par rapport, et après je te laisse la parole, Jean-Marie, c'est que, voilà, s'il y a moi, j'utiliserais pas le mot intention, tu vois, moi, en tout cas, quand j'essaie de faire un film, c'est pas la question de l'intention, c'est plutôt la question de la mise en tension. Vas-y.
Ouais. En fait, on a un peu éludé son passif, en tout cas son activité par rapport aux personnes qui, voilà, pourquoi il s'est à un moment donné il s'est retrouvé là, mais c'est pas parce que c'est pour avoir fait une expérience comme il a fait là, de à un moment donné de travailler dans des institutions. Puisque, en tout cas, moi, de ce que j'ai compris de son histoire, c'est ça qu'à un moment donné, il était dans une institution et que.
Ah, si tu veux,
il
oui.
A il a senti
l'enfermement.
Il a senti l'enfermement.
Il a besoin de s'extraire de ces institutions et de rencontrer des personnes qu'il pouvait rencontrer dans un contexte donné, quoi. Les rencontrer dans un nouveau contexte et que lui, en fait, il a mis en place, quoi. Voilà.
Voilà.
Il s'est réapproprié en fait un endroit, un lieu. Voilà.
Bah, considérer que si tu veux, des gens qui étaient dans une grande fragilité étaient la plupart du temps donc enfermés dans des institutions et que ces conditions d'enfermement n'étaient absolument pas prenaient pas en compte la possibilité en tout cas de rentrer en contact. Et ce qu'il dit lui, si tu veux, c'est que le souci ne vient pas forcément de ceux pour lesquels ils n'arrivent, enfin que ceux qui auraient des problèmes ne seraient pas donc normaux entre guillemets et ne pourraient pas s'exprimer correctement ou ne pourraient pas avoir de liens sociaux dans la société. Lui, il part du principe qu'au contraire, c'est nous qui avons un problème pour entrer en contact avec ces autistes, par exemple. Donc, il met en place un dispositif qu'il appelle. Enfin, c'est même pas un dispositif. C'est justement pas un dispositif. Merci, Lo, j'ai failli déraper.
Il fait un choix de vie.
Il fait un choix de vie où effectivement, c'est un lieu en liberté.
Mais Jean-Marie, je crois qu'il avait quelque chose à dire, ouais, en réponse à que.
Mais après, en fait, par rapport au. Donc, dans son expérience, à un moment donné, il rencontre le cinéma. C'est-à-dire qu'il utilise cet outil-là pour. Parce que. Confronté au quotidien des personnes avec qui il vit, quoi. Donc, qui dans un autre endroit auraient été considérés comme des patients, et puis que lui, en fait, c'est quelque chose d'assez mouvant. En fait, il vit avec ces personnes-là, quoi. Voilà, donc,
oui, ça, c'est le point de départ qui sont.
Voilà. Il rentre dans le cinéma, clac, et puis. Et là, c'est là où, en fait, il a son côté d'ouvertir et de déplacer l'outil qu'il a. Et le mettre dans l'endroit où il a envie de le mettre avec la liberté qui s'est donnée en fait dans les Cévennes, quoi, voilà.
Ouais, ouais.
Et où il déjoue plein de voilà où il déjoue plein de sens qui ont déjà été qui ont déjà investi. Comme il dit, l'image qu'ils ont déjà investi.
Oui, oui. Il revient à quelque chose il extrait des choses d'un contexte social, institutionnel, cinématographique, comme s'il y avait quelque chose, une sorte de retrouver une origine, quelque chose. Tu vois, j'extrais pour repartir à zéro, quoi. À la fois sur la question de comment je réapprends à vivre avec ces personnes où on a fait des barrières très fortes, il y a des autistes, il y a des soignants, les soigner. Et puis dans le cinéma aussi, comment je réapprends
cet outil comme si j'avais tout oublié ou comme si j'avais jamais su ce que c'était que le cinéma, quoi. Mmh. Il y a un truc,
ouais, voilà.
Un truc où on essaie et c'est ça la question du gavé, quoi.
Il y avait, et lui, il avait développé là l'idée de Linder, là, ça, c'est ce que j'ai retenu aussi, quoi. C'est en fait, il me semble donc en fait les personnes qui vivaient là dans ce lieu donc avaient comment ça s'appelle en fait des trajets physiques, voilà, donc dans géographiques réguliers et assez constants, quoi. Et petit à petit il s'est rendu compte que des moments importants de leur vie, il y avait des petites choses à des endroits bien particuliers qui bougeait, quoi, à ce moment-là, quoi.
Oui, il disait de susciter que ça puisse se passer, c'est tout.
Voilà.
C'était pas pré-organisé, etc., mais en tous les cas, faire qu'à un moment donné, il puisse.
Ouais, qu'il se passe quelque chose comme ça, en dehors d'un continuum, comme ça, qui se répète, voilà.
Mais c'est ce que tu ressens dans son film Le Moindre Geste. Tu sens qu'il y a une construction qui est comme ça, c'est-à-dire que tout ce que tu avais l'impression qu'il faisait et comment il considère l'image, le cinéma, il y a quelque chose qui... Moi, quand je l'entends parler, c'est assez déstabilisant des fois, parce que j'arrive à comprendre, on va dire, d'un point de vue théorique ou intellectuel, et encore, avec de la distance, mais quand j'essaye de me le mettre au niveau de ce que j'essaye de faire... En faisant des images et des sons, c'est toute une autre affaire, dans le sens que à quel degré moi je me considère comme gavé ou pas dans ma façon de faire des images ou la question de...
Ah oui, gavé on l'est, ça, c'est inexorablement, oui. Gavé on l'est, puisqu'on est né déjà gavé. Après, c'est vrai que on peut être un moment surpris de voir, comme il dit, des images libres. Donc, un moment, des images qui ne sont pas attendues, des images qui échappent à ce qu'on attend, c'est-à-dire d'être rassuré aux endroits qu'on connaît. Et c'est vrai, quand on regarde Le Moindre Geste, c'est un peu de cet ordre-là. On se demande ce que c'est que cet ovni, ce que c'est que ce...
À quoi on se rattrape pour essayer de comprendre, quoi.
Et effectivement, on se rattrape à rien. Et c'est ça qui reste, je crois, du film. C'est que on est ailleurs, on est quelque part, mais en tous les cas, pas dans ce qu'on a l'habitude d'attendre quand on voit un film de cinéma, ou en tous les cas, soit d'être énervé, soit d'être ému, soit d'être quelque chose. Et là, on est effectivement ailleurs qu'on est d'être quelque chose. On est dans quelque chose qui touche, mais on ne sait pas où. Et de mettre un mot là-dessus, c'est compliqué.
Ouais. Et ça me fait penser à un film de... Comment il s'appelle, Paulet, là.
Ouais.
Jean-Daniel Paulet, Paulet, ouais. Voilà. C'était avec le... le titre, je ne me rappellerai pas. Là. C'était en fait sur une personne qui était qui avait la lèpre, quoi.
Voilà. Ouais, c'est l'ordre, je crois.
Ouais, voilà, c'est ça. Et à un moment donné, dans l'interview, en tout cas ce que le personnage là donc exprime, quoi, parce que lui dit, jusqu'à maintenant on a essayé de nous filmer, de comprendre, et à chaque fois on a transformé notre réalité, quoi. Et lui le dit, donc on le voit à l'image, il est de face, il le dit comme ça, voilà, et il essaie de faire comprendre. Et il espère quelque part que Jean-Daniel Paulet va retranscrire quelque chose de nouveau, quoi. Mais quand tu le vois, tu vois, il y a l'étrangeté, quoi, de sa réalité. Voilà. Il y a quelque chose aussi qui passe de ça, quoi. C'est et dans le film du moins qui a été monté, là, Le Moindre Geste, là, de Delini. Mmh,
il y a quelque chose qui est du même registre.
Du même registre de l'étrangeté à un moment donné, quand lui, il réalise que les... Bon, je crois que c'est Jean-Marie qui à un moment donné, hop, il sort de sa ligne d'air. Il se passe quelque chose. Voilà, il sait pas comment le dire, mais en tout cas, à un moment donné, c'est capté. Et tu sens ce moment qui a été capté, quoi. Il y a un endroit qui... Il n'a pas cherché à comprendre, mais en tout cas, il y a une telle... C'est comme une matinée, un jour, le soleil se lève. Clac,
un jour nouveau,
et il est là, tac, et il est présent dans le film, quoi. Voilà. Et c'est un peu le principe, cette idée des oies aussi, quoi.
Mais ouais, il réussit à. Et lui, il en parle à un moment, Fernand Denis, pour aller dans. Pour essayer de continuer à ce que tu disais, lui. On lui dit, grosso modo, quand on lui demande c'est quoi faire du cinéma, il dit, bah, camérer, c'est peut-être juste une question de réussir à mettre dans sa caméra des éclats de vie. C'est pas plus que ça, quoi. Mm-hmm. Ouais, cette notion de lui.
Ouais, c'est ça. Et puis il y avait le. Ouais. Ça me renvoie aussi à. Alors le film d'animation là qu'il avait fait, quoi, tu vois, du moins qui apparemment, je sais pas s'il l'a fait ou s'il a écrit,
on en manque beaucoup d'informations concrètes, c'est normal, c'est la rentrée, puis on s'est pris une grosse cuite au festival Radio Galère ce week-end.
Mais il y a quelque chose de sobre dans ce qui se passe, et pourtant il y a tu sens le personnage là qui est en train de réaliser de construire une histoire, quoi. Voilà, tu sais pas d'où il est parti, à quoi il veut venir, mais en tout cas il prend plaisir à un moment donné à modeler des la matière végétale qu'il utilise, un végétal, et puis des pierres. Voilà.
À voir, ce film. D'ailleurs, t'as eu de la chance de le voir. Ouais. Dommage que tu ne te souviennes pas du titre. Moi, j'aimerais bien le voir. Mais tout à l'heure, là, à un moment, quand on écoutait, il disait... Alors là, je ne sais pas, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer. Il dit à un moment, une oie prise n'est plus une oie.
Je t'écoute.
D'accord, ça va. Ah, parce que moi, si je ne te vois pas, je vais... Hein. Donc, il dit une oie prise... n'est plus une oie. Et est-ce qu'il fait aussi un écho à l'image quand il dit ça, ou est-ce qu'on peut faire un écho à l'image, la question de l'image, parce que moi ça m'a fait écho comme ça quand il dit une oie prise n'est plus une oie. Alors je me suis dit, putain, mais une image prise n'est plus une image, qu'est-ce que...
oui, parce qu'il fait, bien sûr, puisque de toute façon l'analogie est permanente entre l'oie et l'image, donc quand il dit elle est prise, elle est quelque part. Une oie n'est pas faite pour être prise. Si elle est prise, elle est gavée. Si elle est gavée, elle est chargée de sens. Donc, elle est prise, si tu veux, dans le sens où un réalisateur a l'intention de la prendre. Donc, c'est ça, dans le sens de prise, c'est que il explique justement ce qu'il dit par rapport au réalisateur, c'est que. Le réalisateur a l'intention de la prendre, et on ne prend pas une image, elle apparaît, elle jaillit.
Comme ce que disait la scène que tu décrivais, Jean-Marie, là où tu t'es l'impression de voir une sorte d'éclat, quoi.
Voilà. Et Jean-Pierre Daniel, effectivement, hors lecture, disait dans ses. C'est qu'au cinéma, depuis longtemps, on est obligé d'écrire, on est obligé de, etc. Et donc l'intention est reine en permanence. Donc,
Alors je sais pas, il l'écrit en quelle année ce texte, mais il parle vachement de la question du tournage. Moi, si je parlais de là où je suis au temps de maintenant, je dirais que est-ce que c'est le fait que ça soit qui est l'outil numérique qui est apparu, mais je dirais que je trouve que l'intention, à la rigueur, on peut ne pas la mettre dans le tournage, où on peut réussir à trouver quelque chose de libre dans le tournage. Et je trouve que c'est encore plus dur de le maintenir au montage, cette question de...
Pour reprendre le montage de, du moindre geste, bon, Jean-Pierre Danel s'en est chargé. En l'occurrence, il n'y a pas de plan numéroté.
C'est de la pellicule.
C'est de la pellicule. Il n'y a pas de plan de montage. Et en l'occurrence, Jean-Pierre Danel avait conscience de vouloir donner l'entièreté des plans. Notamment, il prend l'exemple de cette boîte de sardines qui s'en va dans la rivière et qui, dans un plan qu'il a vu monter pour une espèce de teaser, il a compris que ce plan était beaucoup plus long et qu'en fait, il l'a laissé dans sa totalité. Il voulait dire quoi par là ?
En fouillant les boîtes, il a vu qu'à un moment, quelqu'un a fait une tentative de montage, une première tentative de montage de ces images. Et cette première tentative de montage, elle montrait la rivière alternée avec des plans d'une petite boîte de concert qui dérive. Il y avait quelqu'un qui avait déjà mis une intention. En essayant de faire comprendre que par ce montage, c'était l'image de la notion de la dérive, quoi.
Voilà.
Et le fait qu'il voit ce premier montage, lui, il a sûrement avec plein d'autres raisons X, Y, il se dit, c'est pas comme ça qu'il faut monter. Il faut monter en prenant l'intégralité des plans.
Absolument. Et notamment ce qu'il y voit aussi.
Mettre d'intention dans le montage, mais prendre. Mais c'est là où, j'en reviens à la question que je disais, c'est là où tu te dis, dans cette configuration-là, tu peux ne pas monter. Parce que finalement, c'est ce qui fait un peu Jean-Pierre Danel, c'est que finalement, il ne monte pas, d'une certaine manière.
Il ne monte pas parce qu'il se rend compte que dans les images qu'il voit, qu'il découvre, il y a autre chose que l'intention, puisqu'il découvre que, justement, il y a une idée de non-intention. Mettre une boîte...
Je ne sais pas si dans les images, il ne voit pas... Il découvre la question de la non-intention. Ça, je ne m'en sais pas comme ça. Il voit que quelqu'un a essayé de les monter avec une intention. Ça, ouais.
Non, mais c'est d'accord. Mais sauf qu'il découvre quand même que les plans durent beaucoup plus longtemps.
Oui, voilà. Mais donc, c'est pas, tu disais qu'il voit dans les plans qu'il n'y a pas d'intention. Non.
En tous les cas, il a l'intention, lui, de ne pas en mettre un.
Voilà. Donc, ça, on est d'accord.
Parce que, quand même, ce qu'il explique à Deligny, et c'est là que Deligny lui dit « t'as tout compris », c'est qu'il lui dit qu'il a envie de respecter quelque chose qu'il a vu au tournage, qui a quelque chose de l'ordre d'une durée, et qu'il a envie, intuitivement, comme ça, de laisser parler son intuition et d'aller dans ce sens-là. Et Deligny lui dit « t'as tout compris ». Donc, à partir de là, il se dit « bon, je vais aller dans ce sens-là, je fais confiance à mon intuition ». Donc, il a fait un montage, et tant mieux, peut-être à l'intuition, il aurait pu moins bien faire, il aurait peut-être pu mieux faire,
il a fait un montage en essayant de suivre l'énergie de ce film.
Il a donné la possibilité à ce film d'exister.
Mais par là, ce que je voulais dire, pour revenir à mon idée, parce que tu t'arrives, je sais pas si... Le fait, c'est que quand tu filmes des images, elles sont pas pareilles que quand tu les mets sur le banc de montage, dans ce sens-là. C'est, je veux dire, que la question que je me posais, c'est que peut-être que Deligny, ils ont fait les images sans intention, mais est-ce que justement, quand tu vois les images... Qu'est-ce que tu vois ? Lui, il arrive à se dire qu'il faut que j'essaye de monter en gardant les plans. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il n'y met pas trop d'intention.
Oui, bon, alors après...
Parce que tu en as quand même une intention. Tu as un début, tu as une fin, tu as une petite histoire.
D'accord, vous allez découvrir après donc une autre lecture de texte où il parle de fabrication de pain au lieu-dit où il y a les autistes. Et dans cette fabrication de pain, il parle de mémoire ancestrale sur le fait de faire du pain. Et l'idée, c'est pas forcément de faire le même pain à chaque fois, c'est de savoir avec quoi on le fait. Donc dans ce tournage du moindre geste, l'idée, c'est que derrière, il y a un travail, bien entendu. Il y a un travail avec une manière de faire qui est bien pensée. On va sur les lieux, on le découvre, ils se sont imprégnés complètement de ce lieu, des jeunes avec lesquels, des jeunes autistes avec lesquels ils passent énormément de temps. Donc tout y est pour vivre l'expérience en même temps que les autistes, cette expérience de cinéma. Donc on part pas de quelque chose, de n'importe quoi, on laisse la caméra tourner
et
puis terminer.
Non, c'est exactement ça. Et le truc, c'est qu'ils partent que de là. Il n'y a rien d'autre. Ils partent de... Parce qu'à un moment, dans son expérience, justement, Deligny raconte que finalement, le cinéma a arrivé, et je pense que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Marie, parce qu'aussi, besoin, nécessité. Tu vois, ils ne sont pas dit, allez, on va prendre du matos caméra, et puis on va faire un film. Il y a quelque chose de... On avait vécu ça, et là, il fallait qu'il y ait autre chose qui arrive pour qu'on puisse vivre autre chose dans ce qu'on vivait depuis 10, 15 ans. Ce qui fait qu'ils ont juste installé
cette configuration-là, et il n'y avait, plus, y avait pas, pas plus d'intention quoi, que...
Alors, effectivement, oui.
Oui, et puis peut-être aussi que donc il y avait Deligny, il y avait d'autres personnes qui filmaient avec, avec lui, et que c'était quand même...
Oui, Deligny ne filmait pas, en fait, pratiquement. Hein, c'est,
là, il y avait... Il y avait
Fanti.
Il y avait peut-être le, voilà, la, aussi la découverte du, de l'outil, et la, la, du moins du langage de l'image, mais eux, en fait, ils n'avaient pas le, l'expérience forcément cinématographique que peut avoir un réalisateur.
Maninti, hein, c'est ça, je crois.
José Maninti.
José Maninti, qui a fait l'image, effectivement.
Et que par rapport à ce que Deligny, lui, vivait avec les autistes, et puis découvrait un petit peu aussi de, par rapport au langage où, où ces personnes-là vivent au, au quotidien, c'est du langage inventé au quotidien, quoi, voilà. Mmh. C'est pas des, comment, des, un langage qui, qui se pose sur une expérience passée, mais qui est quelque chose qui est à réinventer, quoi, tous les jours. Et, et quand il parle de Linder, c'est ces personnes qui cheminent selon un chemin en fait assez cyclique. C'est, ils revivent au quotidien, quelque part, l'invention du langage. Et donc, Deligny, lui, bon, ben, son expérience du langage oral, il en a une. Mais par contre, il découvre la forme du cinéma et de l'image, une manière de prendre la réalité, quoi. Et pour lui, c'est aussi une manière de rien, du moins d'exprimer son autisme, voilà.
Absolument, je
dans
crois
un endroit où là il a il est où là son, comment son expérience est nouvelle, quoi.
Bah, c'est oui, exact, ouais, ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait il renverse l'autisme, en fait. Il dit l'inverse, c'est-à-dire que, enfin, il dit ce que tu dis, c'est-à-dire que les autistes, c'est nous, on est autiste par rapport à notre capacité à recevoir l'image libre, hein, ou à en faire. Et on est autiste à pouvoir écouter les autistes, c'est-à-dire à rentrer en lien, à être en lien avec les autistes, en pensant que seul l'autiste est autiste et qu'il ne serait pas dans notre monde, alors qu'on est incapable, nous et surtout les institutions qui ont des méthodes bien particulières pour, voilà, rentrer en permettre aux autistes absolument de leur arracher des moyens de venir dans notre monde, alors que lui, il dit qu'on est autiste vis-à-vis des autistes.
Et alors, lui, en fait, il accepte à un moment donné aussi son côté autistique là, par rapport au cinéma.
Ouais.
Voilà, et que il découvre là sa liberté aussi dans ce flux là, quoi. Il y a quelque chose qui peut découvrir en même temps inventer, quoi, voilà.
Oui, puis je pense que je sais que Deligny, ce que je connais, c'est aussi toujours une question que lui, ce qui il lançait les choses, et après ce qu'elles devenaient, une sorte de détachement, quoi. Et c'est aussi, je pense, le fait d'être comme ça en lançant les choses qui fait que tu arrives à laisser quelque chose exploser, quoi.
Oui, puis alors Deligny, c'est Deligny. D'ailleurs, Jean-Marie, je te recommande de bien coller au micro quand tu parles, parce qu'apparemment ça résonne. Voilà, donc pratiquement la bouche dessus, même, c'est mieux. En fait, bah oui, et ce qu'on peut aussi voir, c'est que la pensée de Deligny, elle dépasse bien entendu le cinéma, mais cette histoire d'être chargé de sens, on est chargé de langage aussi dans la vie, chargé de sens, chargé d'intention, chargé de projet, chargé de mettre des projets en mouvement, donc tout est projet et intention. On ne serait chargé en permanence que de faire et non plus d'agir, mais donc du coup, cette notion de projet, pour lui, elle est capitale, puisqu'elle met en valeur, ou du moins en lumière, notre problématique du moi présent en permanence. Et il dit juste une chose qui dépasse le cinéma. Il dit: rien posséder en propre, à commencer par soi-même. Alors ça va loin.
Ah ouais,
on le dit. Alors ça, c'est une
C'est une phrase aussi issue de Samuel Beckett, dont il se sent très proche. Donc il y a un, et puis effectivement on pourrait comparer aussi bien entendu Walter Benjamin qui lui décrit le
oh là, tu vas loin, là.
Non mais c'est deux choses parce que par rapport au langage donc qui du coup ben, un écran on va dire presque engluant le fait de pouvoir être dans le non jugement mais simplement de porter du jugement. Le Benjamin dit le langage provoque le jugement, de l'ini dit le langage, lui c'est le bavardage. Donc il y a une notion comme ça d'écran. Alors il n'est pas contre le langage bien entendu, puisque à plein d'égards le langage dans la poésie etc est exploité pour
oui, il n'est pas contre, moi je sais pas, oui, j'ai du mal à savoir.
Mais
oui,
il n'est pas contre, mais il dit qu'on simplement on en est gavé, c'est différent. Ça veut dire que dès la naissance, dès toute notre éducation, même antérieure à notre naissance, tourne autour du langage. L'émancipation du moi tourne autour du langage. Donc, grosso modo, il n'est pas contre le langage. Il dit simplement qu'on en est gavé. Et le langage est jugement. Le langage part du moi. Le langage émancipation, etc. Donc, il se met en défaut, bien entendu, vis-à-vis d'une personne. C'est un psychanalyste comme Lacan, bien entendu.
Dont la cadreuse José Manenti est devenue l'assistante.
Voilà, donc en même temps, c'est ça qui est assez étonnant. Et effectivement, ça n'empêchera pas d'être recueilli par Guattari à la clinique de Laborde, d'ailleurs, dans un état de précarité difficile.
Il n'est resté que 2 ans parce qu'il n'a pas pu tenir plus.
Voilà, il n'a pas, pas pu tenir
plus. Croisements.
Mais c'est des croisements, effectivement. Et c'est vrai qu'il se met à défaut d'un courant autour de la psychanalyse. Et donc, il fait partie de ceux qui critiquent pas mal ce courant-là. Bon, alors, je vous propose quand même d'écouter la deuxième partie de cette lecture. Et je crois que ce texte-là va être lu, me semble-t-il, par Regina.
Oui, donc, c'est ça.
Donc, Regina. Au cours de la semaine asymétrique. On l'écoute.
Repartons des événements nécessaires, puisque l'ouvrage est de faire un film. S'il y a quelque analogie, ce que je pense, entre cet ouvrage et l'ouvrage d'ici, nous avions de quoi faire, ne serait-ce que préparer la nourriture ou se faire le pain qui provoquait une demande de voisinage, les gens comme on dit. Préférant ce pain-là, pain d'ici, sortant d'un four à bois, on ne peut plus archaïque. Voici l'événement quotidien ou quasiment. Poursuivant l'analogie, le film sera simple comme du bon pain. Il y va de la farine, du levain, de la cuisson, qui n'est pas rien, du pétrin. Il y a là, sous couvert d'un mot simple, toute une pratique. Il en est de même lorsqu'il s'agit de faire un film. Sera-t-il au goût du jour? Il s'avère que le pain d'ici est du goût de tout le monde, ou quasiment. Et justement parce que, fait maintenant, il est le même que le pain d'antan. Il est vrai que je ne vois aucune différence de nature entre du pain de campagne et du cinéma populaire bien levé, cuit à point. Si le pain d'ici est incomparable, ce n'est pas par le pain même, mais bien par la manière dont il a été fait. La manière ? Il faudrait plutôt dire les manières. Celui qui le fait y met la manière. Les gestes du fer subissent une dérive due à la présence proche, attentive de Jean-Marie, l'hôte vierge, ignorant tout autant l'attrait sexuel et affectif que l'attrait du langage. Lui faire signe à son intention, et l'être morte. Cet aveuglement est étonnant. Alors que le regard de Jean-Marie balaye sans cesse un vaste champ de voir, le signe n'est pas perçu en tant que signe, geste mort, perception esquivée, alors que tout autre geste, la moindre nuance du geste en cours, est saisie, en corrélation avec les enchaînements du faire en cours. On comprend bien qu'un tel aveuglement soit interprété sur le mode de l'intention. Cet entêtement obstiné venant de l'arsenal conventionnel est tout à fait remarquable. Ainsi pense l'homme que nous sommes, obstinément, malgré l'évidence. Nous sommes étrangement aveuglés, tout autant que Jean-Marie nous semble l'être, lorsqu'il s'agit de signes dont il faut bien qu'ils soient codés pour être signes. Ce voisin, le langage qui nous occupe, l'envahit, l'occupe aussi. Qu'il en soit autrement est littéralement intolérable, et il est flagrant que c'est la croyance, que c'est la croyance. On imagine mal les subterfuges des tenants de la convention, leurs arguties, les subtilités de leur démarche. Tout se passe comme si l'homme que nous sommes était dans une sphère elle-même plongée dans un élément qui la menace de toutes parts, soit par excès de pression, soit au contraire par aspiration du vide. Le moindre trou, la moindre éraflure dans l'enveloppe est celle des astres. Alors on s'affaire, et si Jean-Marie ne parle pas, c'est tout comme. Symbolique, il l'est. Il faut qu'il le soit, d'une manière ou d'une autre. Or, ce qui est en péril, ce n'est pas notre monde, c'est la convention dans laquelle nous vivons, rien d'autre. Et de cette convention, il faut croire que le moindre geste symbolique, le moindre geste de parodie, puisqu'il représente, veut dire, en est la matrice, et sinon la matrice, au moins geste d'assujettissement. Tout est là dans cette parodie. L'un fait comme l'autre, même s'il ne s'agit que d'un geste vague, à peine esquissé, ça suffit. C'est l'agenouillement devant l'idole. L'étranger est sujet de sa toute-puissance, de sa toute-puissante majesté, la convention, souvent surnommée « on », l'homme. On devrait s'écrire « ron ». L'étranger se reconnaît en ron, qui veille à ce que la convention soit respectée, scrupuleusement respectée. L'initiation ne commence jamais assez tôt, dès la naissance, dès avant la naissance, pendant la conception, aurait-elle été inadvertante. C'est pourquoi je dis au preneur d'image que cet hôte mécréable, qu'il veut bien admettre quand j'en parle, et alors il admet de parole, ne le gênera pas beaucoup. C'est pourquoi je dis au preneur d'image que cet hôte mécréable, qu'il veut bien admettre quand j'en parle, et alors il admet de parole, ne le gênera pas beaucoup. Il ne le sentira ni ne le ressentira, agissant et réagissant, alors que tout un chacun le fait, tout à chacun d'entre nous, n'importe qui, et voilà tout. Comment voulez-vous réagir à un autre indésirable, indésirable de par le fait que l'autre est innocent de tout désir?
Voilà, retour en quête de cinéma, donc on est vraiment dedans là.
J'aurais dû aller au WC parce qu'avec l'immensité de la friche, je me serais perdu.
Ouais, alors là c'est vrai que on est dans les locaux donc de galère, et que c'est plus le côté convivial là qu'on a connu, c'est froid de blanc de chez blanc quoi. Bon, enfin bref, donc.
Bon, vas-y, c'était une, je sais pas, une. Moi j'ai décroché un moment là.
T'as décroché parce que c'était trop long?
Non, mais ça part loin quoi. Vas-y.
Ouais, moi,
jette la pierre.
Jean-Marie, parle bien dans le micro, s'il te plaît.
Voilà, c'est cet après-midi, en fait, je travaille dans la charpente. Et depuis quelques mois, là, je travaille avec quelqu'un qui, il a 40 ans d'expérience, hein, il va bientôt aller à la retraite, quoi. Donc il a tout un vécu. Voilà. Et comme dans le texte, en fait, pour l'instant, je suis assez réceptif de ce que lui fait par son expérience, ce qu'il peut me transmettre, tu vois, de savoir, quoi. C'est assez impressionnant. C'est une manière d'apprendre le métier, quoi. Et cet après-midi, il nous est arrivé quelque chose d'assez sensationnel, du moins, par rapport justement au vécu qu'on a là du quotidien, et puis d'un cycle qu'on pourrait faire aussi, mais alors pour le coup de transmission, de reconnaissance du métier, puis de l'art de la charpente, quoi. On s'est trouvé devant un problème que lui et moi on n'a pas résolu, quoi. Alors sur le premier coup, moi j'étais à son écoute, quoi, voilà, à venir. Qu'est-ce que son expérience allait pouvoir apporter comme solution au problème. Donc il fallait qu'on remplace un petit morceau, une pièce avec une forme bien déterminée, mais cette pièce on pouvait pas la mettre entière à l'endroit où qui lui était déterminé, parce que on devait la manipuler et ça bloquait dans tous les espaces, quoi. En fait, il fallait la couper, quoi. Voilà. Donc on a cheminé toujours à comment trouver la solution, quoi. Mais en fait, c'était toujours lui qui apportait la solution, quoi. Et à un moment donné, je sais pas, en tout cas il s'est passé un truc, j'ai ressenti qu'il n'y avait pas quelque chose, et là j'ai pris un ciseau à bois et puis j'ai commencé à marteler le bois et à prendre la matière, quoi. Et à ce moment là à effacer tout ce que lui pouvait essayer de me transmettre, mais vraiment à prendre la matière, et à partir de la matière je me retrouve devant quelque chose, une problématique, voilà, avec mon ressenti du moment, quoi. Alors c'est un charpentier qui voit ça, il hallucine. Mais sur le moment, c'est vital, quoi. Il claque, et puis et pouf, tu rentres, et tu trouves une solution qui n'est pas la solution parfaite, mais en tout cas, tu fais avancer les choses, quoi, tu vois.
C'est un bel exemple d'agir et pas de faire.
Ouais, puis c'est un bel. Moi, ça me fait poser la question, parce que t'es charpentier, puis t'es aussi plein d'autres choses. fêtard, un petit peu poète, cinéaste. T'as fait un petit film qu'on va sûrement essayer de voir à la rentrée à Dada, ou peut-être au local.
Sur tous les écrans
marseillais. De un Reconsola avec l'association Lumène. Et là, comme tu parles des choses, moi je me dis, c'est comme ça que tu montes tes films. Il y a quelque chose qui résonne. Non, je sais pas. Il y a un truc où t'es là. Il y a un bout. Il faut trouver une solution. Ça se met. Moi, il y a quelque chose qui fait que t'es pas dans la question d'une. Ça se pose pas sur la question d'une intention.
C'est pas t'as une intention de, mais, puisque finalement celui qui a une intention c'est ce monsieur qui a 45 ans d'expérience et qui a une intention parce qu'il a une histoire, il a une expérience, un chemin, donc.
Je dis pas qu'il a une intention, c'est moi qui lui prête une intention.
Toi tu lui prêtes une intention. Voilà. Non, lui il a une expérience.
Lui il a une expérience. Après
et de cette
comment,
expérience,
comment il vit.
Voilà, il.
Voilà. Mais après la personne disait dans le texte qu'elle lisait. C'est ça, c'est après comment on projette et on interprète l'expérience de l'autre. L'autre, lui, il a son expérience, quoi, mais la chose importante, c'est de l'expérience, c'est partir à un moment donné, c'est ça,
de la matière.
De la matière, de.
Donc
Fabrice, l'agir à un moment donné.
Tu mets de côté l'expérience.
Bah oui, mais en tout cas, tu prends l'expérience à l'endroit où tu te trouves et non pas à l'endroit où l'autre se trouve.
Oui, voilà. Et si toi tu es en train. Oui, oui, oui.
Et là, il peut se passer un dialogue à ce moment-là. Quoi.
Mais quand. Voilà. Est-ce que cet état de faire ou cet état d'agir, on peut le retrouver quand on a justement 45 ans d'expérience ou est-ce qu'on y est. Parce de fait qu'on ait 45 ans d'expérience.
Tu veux dire, est-ce qu'on est tombé dedans à la naissance
fermé, ou... quoi. Je veux dire, fermé. De ne pas avoir cette, tu vois.
Ouais, après,
est-ce que la virginité de l'expérience fait qu'on garde la je sais pas comment dire, la liberté chaque fois de faire à partir de ce qu'on est, ce qu'on a, quoi.
Mais ça, on
ou
le
ce
voit.
Qu'on a.
Voilà, il y a. Mais tu le vois dans les films là. Voilà, c'est dans la dernière fois, la dernière émission là, on en avait discuté. Moi, dans les films que j'ai vus à ce moment-là, il y a quelque chose qui est de vraiment de
au FID festival.
Non, de l'agir. Mais quand dans le film que tu donnes, tu sais là où ça se passe sous le tunnel, ou même dans le deuxième avec chez tes grands-parents là.
Ouais.
Voilà, il y a plein de moments comme ça où tu vois que tu es traversé par vraiment une question de l'agir, plus de l'expérience de l'agir à l'endroit. Voilà. Mmh. Après,
oui.
Après, ton expérience fait que tu construis des choses autour, mais en tout cas, il y a un moment, tu sens que ça ressurgit, du moins comme une résurgence, tu vois, ça apparaît, ça s'enfonce, voilà, ça revient. Tu le vois, quoi, ça au travers du film. Quoi.
Oui, et puis voilà. Je crois que ce que tu disais justement par rapport à l'image que tu donnais de ton collègue qui a une expérience, etc. Toi, Lolo, aussi, comme tous pensent qu'on a aussi la projection, c'est ça que tu voulais dire aussi, Jean-Marie, je crois, une projection qu'on peut faire la vision qu'on veut bien avoir de quelqu'un à un moment donné, et déjà, cette projection qu'on a est déjà quelque chose qui met une barrière sur la possibilité de la liberté qu'on peut se donner éventuellement d'être dans l'action, dans l'agir, parce que il y a peut-être une peur de transgresser ou du moins d'aller de se laisser aller à l'agir, pensant que l'autre est possesseur d'une expérience qu'on lui donne, en fait, même s'il l'a, bien entendu, mais peut-être alors que
l'image sur l'image.
Alors que malgré nous, finalement, à certains égards, si je pense que ça a à voir avec quelque chose qui est d'un désir très fort ou d'une, on peut toucher ces instants peut-être de libre à partir du moment où on se laisse aller à aller dans cette direction-là. Je dirais de pouvoir être authentique avec soi-même, en tous les cas. Je pense qu'à partir du moment où on est au plus près de ce qu'on est dans la manière dont on peut agir, ou même dans le cinéma, mais comme ailleurs d'ailleurs, je pense que les moments où on est le plus vrai et le meilleur, hein, c'est quand on est entièrement soi-même. Donc désengager des peurs dans lesquelles on s'enferme, quelles qu'elles soient.
Et je voudrais dire aussi que comment ça s'appelle, Deligny, il analyse pas le cinéma, il est pas en train de projeter, il est en train de vraiment de partir de son expérience de son expérience du cinéma, de son et de en fait, la compréhension aussi qu'il a de ce que la manière dont les gens avec qui il vit appréhendent au quotidien leur réalité, quoi. Là, il se retrouve, ça résonne avec lui, son expérience, quoi. Et je pense que c'est ce qu'il a envie de donner, quoi. C'est vraiment pas une question de sur comment l'histoire, l'analyse, tu vois. C'est vraiment quelque chose, voilà, c'est un ressenti qu'il a par rapport à cet objet, cet outil, quoi. Voilà, la possibilité d'inventer quelque chose, voilà, parce que cet outil, en fait,
il est assez
inconnu parce qu'il est relativement jeune, quoi, dans l'humanité, quoi, voilà, et dans son expérience, c'est quelque chose qui apparaît, quoi, voilà,
C'est très, très juste.
Le cinéma comme effectivement une sorte de machine miraculeuse quelque part qui toucherait une mémoire d'espèce. Alors, il n'y a pas que le cinéma, bien entendu, la peinture éventuellement. Alors, qui est-ce qui en parlait pendant les lectures et qui comparait quelque part le moindre geste à un tableau de Cézanne? L'homme serait absorbé dans le paysage, il y aurait quelque chose de cette liberté qui à un moment donné est pas à rechercher mais qui se pose là parce qu'elle est juste saisie.
Comment il en parle de la mémoire de l'espèce de Deligny? C'est avec cette histoire de radeau aussi ou tu parles de ce paysage, ouais.
La mémoire d'espèce, elle est quelque chose qui nous dépasse, hein,
qui précéderait
le langage encore.
Voilà, qui précéderait le langage.
Ça, c'est le moindre des choses qu'on puisse dire. Et il y aurait alors effectivement, il prend cet exemple de radeau d'un jeune mexicain d'un enfant mexicain qui n'aurait jamais voyagé, qui n'aurait jamais vu de radeau, etc. Et qui
n'aurait jamais vu la mer.
Et qui se met à fabriquer un radeau avec des petits bouts de bois et qui, voilà, donc ça pour dire qu'il y a quelque chose qui vient de l'ordre peut-être d'une mémoire ou d'un mimétisme, en tous les cas de quelque chose qui aurait été perçu ou ressenti, qui ne s'explique pas et qui fait qu'à un moment donné, un geste peut. Et donc, on a quelque chose bien entendu en commun, et c'est ça le plus important, avec toutes les espèces. Or, il donne l'exemple des oies en disant que la seule dénomination qu'on donne aux oies, c'est d'être des sottes. C'est la seule chose qu'on a pu dire des oies. Alors que les moutons, eux, au contraire, faisaient partie de l'image utilisée par le christianisme, plutôt une image positive. Les oies, elles étaient au contraire bêtes. C'est montrer à quel point l'homme utilisait l'animal, qui est une espèce avec toutes les espèces avec lesquelles il est proche, traiterait les animaux comme de simples objets destinés aujourd'hui à servir la publicité. Et c'est la seule chose qu'on arrive à dire, à faire ou à parler des animaux. Or, grosso modo, il dit que l'espèce, elle est commune, enfin du moins la mémoire d'espèce est quelque chose qu'on a en commun entre toutes les espèces. Donc que ce soit bien qu'il s'agisse de l'homme ou de n'importe quel animal, il y aurait quelque chose comme ça, un territoire commun.
Ou du végétal, si on veut.
C'est pas forcément un territoire. Bon, alors je vous propose peut-être qu'on lance la troisième lecture.
Allez, on est parti.
On est parti.
Pas à vrai dire une espèce en voie de disparition. De même pour l'image. C'est là un mot dont l'usage est fort répandu. Reste à savoir si l'usage surabondant d'une appellation correspond à l'existence de ce que cette appellation soi-disant évoque. Il peut arriver que la surabondance du vocable dénote la disparition de ce qu'il est supposé évoquer. Le vocable, alors devenant ersatz, quitte à ce que l'habitude prise de l'ersatz élimine la nécessité du produit d'origine. Or, image est un mot fort important. Il se pourrait, et c'est ce que je dis au preneur d'image, que l'être humain soit logé à deux enseignes d'égale importance et qui, tout autant l'une que l'autre, lui donne ses caractéristiques fort singulières d'être parlant Et ceci dit, le philosophe qui va cheminant à travers la culture en quête de la source vivace de la parole se trouve aux prises avec un mouvement dont la nature échappe. À ce philosophe manque l'expérience d'un détour en tant que présence proche de quelque enfant privé depuis toujours de l'usage du langage. Vivant proche et comme en symbiose, apparaît l'évidence d'un mouvement dont l'aboutissement n'est pas la parole qui, d'après le philosophe, intervient chaque fois et toujours. Ce qui intervient est mouvement d'agir, ce mouvement ricochant d'un mouvement provoqué à coup sûr par l'image qui a surgi spontanément, comme par réflexe. Où se voit ce que je veux dire si on admet les deux enseignes, que le même mouvement, même à l'origine, peut s'acheminer vers la parole si parole il y a, ou vers l'agir qu'il ne faut pas confondre avec faire quoi que ce soit. Deux chemins donc, et fort distincts. Et on voit bien que loi, engagée depuis belle lurette, dans la voie domestique, bat encore des ailes et allonge le cou quand passent les oies véritables, encore et toujours malgré son sort. Repu, gavé, gorgé et regorgeant de la parole, l'être humain réagit au passage de l'image, vainement, et cette image est dramatique, car ce mouvement qui est sursaut lui échappe au point qu'il se demande d'où ça vient et où ça va. Tout se passe comme si les deux oies voisinaient, comme le philosophe le dit de l'être humain et du langage, voisin proche, même s'il nous semble bien que ce voisinage est symbiose. Il est difficile de penser que l'oie domestique se souvienne des ancêtres, et alors elle les saluerait au passage d'un mouvement d'intention ritualisé, et c'est d'ailleurs ce que l'être humain ne manque pas de faire, non pas à propos des oies, mais pour ce qui le concerne. Lorsqu'il s'agit de loi, où loger ce « ce » qui garderait mémoire ? Où il apparaît que la mémoire en « ce » n'est pas la seule. Il y a donc une mémoire domestique et une mémoire autre qui voisine tout comme l'algue et le champignon dans cet individu dénommé lichen. Il a donc fallu, et c'est ce que je dis aux preneurs d'images, que nous allions passer par les oies pour en venir aux images. C'est un long détour, mais qui a le mérite d'éclairer une confusion admise de par l'usage d'un mot qui, surchargé de tout dire, ne dit rien du tout, tout un chacun l'entendant pour ce qu'il veut dire. Mais voyez où les oies nous mènent, jusqu'à la liberté. L'oie domestique n'a plus la liberté d'agir selon le mouvement qu'elle ressent lors du passage des oies soi-disant sauvages, qui sont oies d'espèce, et voilà tout. Aussi humaines que soient les images dont je parle, c'est d'images qu'il s'agit et de rien d'autre, et si je les dis humaines, c'est qu'elles le sont, et d'une manière qui ressemble fort à ce qu'il en est des oies qui vivent en troupe et en constellation, ce mot de formation qui convient pour désigner ce qui advient entre elles lorsqu'il s'agit de s'envoler, de répondre à une menace, de préluder à l'accouplement, et tout ce qui concerne la vie de l'espèce. Nous sommes hantés par un peuple d'images. Si vous entendez hanté comme quelqu'un d'antan l'aurait entendu, c'est-à-dire habité tout simplement. Et il n'est pas étonnant que ce mot soit venu de Scandinavie, pays des oies par excellence. Il aurait fort bien pu se faire que de tout un chacun de nous soit ce petit bonhomme à califourchon sur leur cou, et donc porté et emporté par elle. Le hasard en a décidé autrement. Le hasard ou je ne sais quoi. Le petit bonhomme les a domestiqués. Elles le servent, nourrissent sa pensée. Leur troupe harmonieuse est devenue troupeau qu'un enfant peut garder, les menant paître. Il est tout à fait étonnant que le mouton soit devenu ce qu'on en voit dans les églises, et fort honoré, alors que l'oie, c'est bête qu'elle est. Ce qui montre à quel point l'homme que nous sommes agit sans vergogne, ne connaissant des espèces animales, à part bien sûr leur usage nutritif ou utilitaire, que ce qui lui suffit pour y fourrer les allusions qui lui conviennent, l'image lui suffit, et on voit bien alors ce que l'image est devenue. Tigres, panthères, pumas sont en photo dans les albums, et c'est de la pub. Les animaux sauvages semblent faits pour ça, pour porter de la pub, tout comme un écran de télé ou le plastron d'un coureur, et l'enfant, possesseur de l'album où sont collés les animaux sauvages, devenant de plus en plus idiot cependant qu'il devient agrégé ou ingénieur. On lui apprend à discuter, à voter, à prendre la parole, parodie qui le forme, comme on dit, et le cultive sans qu'on sache trop s'il est le terrain ou le chou-fleur. La terre se cultive et le chou-fleur aussi, et la haute idée qu'on a de soi-même. Il ne faut pas croire que ce traitement est réservé au monde animal ou végétal. Il en va de même pour ce qui est humain, tout autant engraissé, asservi et appelé sauvage, à moins qu'esclave il ne devienne. Par ici, par là, quelques individus s'émerveillent de la manière dont les araignées font leur toile, ou les castors leur digue et leur hutte, ou les termites leur puits d'aération. Ils restent pantois devant les inextricables articulations de l'instinct propre à chaque espèce, de cette adresse, de cette ingéniosité, de ce génie qui nous échappe alors qu'il nous arrive de reconnaître le nôtre, celui de l'homme que nous sommes. On croit le reconnaître, il nous échappe tout autant que celui de n'importe quelle espèce, et pour cause. C'est le même mouvement dont le philosophe s'étonne que, par-de-ça son aboutissement à la parole, selon lui inéluctable, il reste et demeure mystère. Et c'est ce que je dis aux preneurs d'images. Prendre, attraper une oie domestique est à la portée de tout éleveur et même de tout passant qui aurait la main preste. Ces oies sont comestibles, tout comme les images de même nature sont compréhensibles, saisissables. Reste qu'un vol d'oies forme, haut dans le ciel, une constellation immuable. Les oies alignées en V, l'oie de pointe relayée par une autre forte par une autre fort opportunément. Les vraies images, celles qui ne sont pas surchargées de représenter quoi que ce soit, ont entre elles des formes qui n'attendent que les circonstances opportunes pour se déployer comme avant. Mais avant quoi? Cet avant risque fort d'être un leurre, qu'ils se disent avant ou ailleurs. C'est maintenant, là, et dorénavant qu'il s'agit d'images.
Bon, bah, hormis c'est vrai de parler à nos chiens et à nos chats, on n'est pas très doué pour reconnaître que on fait partie d'un ensemble d'espèces communes.
Non.
Bon, c'est vrai qu'on les a vus à la télé, les zèbres, les girafes, mais.
Ouais, c'est vrai. Moi, aux zoos aussi.
Aux zoos aussi.
Ouais, ouais. Deux, trois fois.
Ouais. À Six-Jean aussi, un peu plus en liberté, mais enfin
un
bon.
Peu
mais,
plus, ouais.
Par contre, ils prévoient quand même à Six-Jean de faire un espace de. Humains aussi, pour que c'est quelques vrai. Humains puissent être vus par d'autres
oui,
humains.
J'ai vu, c'était une des premières réformes du PS.
Ouais, mais ouais. Bon. C'est, eux, ils seront peut-être payés à Marc pour le faire.
Ouais, ce sera des intermittents. Ouais. Alors, donc, OA, V, parler. Qu'est-ce qui se passe?
Bon, est-ce que tu as mangé du foie gras cette année, Jean-Marie?
Cet été.
Quel salaud. Quel gavé, on le croyait noix sauvage, et en fait, c'est un noix gavé de foie gras.
Non. Bon, les oies. Alors. Ouais. Moi, je sais pas.
Tu sais pas, non?
Moi, ce que je peux dire alors, par rapport au texte, hein, je reviens comme mon expérience d'aujourd'hui, c'était
assez, la charpente. Assez,
voilà, mais
je préfère.
En fait, quand on doit cacher un petit défaut dans le bois, un trou, tu vois, ou un coup de ciseau qui a été mal placé et qui détériore l'esthétique, on utilise une technique. Donc on taille des petits morceaux de bois comme ça, puis hop, on bouche les trous, on cache des petites imperfections. Et ça s'appelle les pièces de bois s'appellent les rossignols. Voilà. Et cet après-midi, on était en train de réparer quelque chose aussi dans une structure. Mais c'était quelque chose d'une grosse taille. Alors, un petit peu comme ça, ironiquement, je dis à mon collègue, bon, ça, est-ce qu'on appelle ça rossignol ou quoi? Parce que ça commence à...
C'est du gros, là.
C'est du gros, ça, c'est important. Et là, il me disait, c'est là que c'est assez marrant. l'action quoi de voilà de tailler, on appelle ça hanter le bois en fait. Clac.
D'accord.
C'est-à-dire,
ah ouais, d'accord.
Un truc, voilà, et puis ça me faisait réagir.
Ah oui,
voilà,
par rapport,
voilà. En fait, qu'on soit hanté.
Hanté, et donc, voilà, apporter quelque chose de nouveau. Et ce que je trouvais étrange, c'est que, voilà, c'est ce moment de relation qu'on a eu tous les deux, là, qui était vraiment particulier, qui s'est échappé de toute structure, quoi. Voilà, et que, clac. Et se dire que
on en revient à nos éclats.
Ce moment là de hanté, voilà, qui passe dans alors on dit une enture en charpente, clac, la pièce, paf, voilà, et que cette expérience hante quelque chose, une structure existante, tu vois, voilà, ça c'est vraiment chouette.
Ouais. Ouais, voilà. Puis il prolonge le mot hanté aussi en parlant d'habiter, quoi. Mmh. Comment on est habité à un moment par quelque chose, à un endroit particulier.
Alors,
c'est de la magie, hein, on n'est pas loin de la magie du surnaturel. Hein. Mais attention, là, faut faire gaffe, on est rationaliste quand même.
Bon, alors en fait, Jean-Marie, toi, on comprend que t'es proche de l'espèce des rossignols. L'eau, c'est quoi, toi, ton
colibri?
Colibri. Ah, c'est quand même un petit oiseau.
Ouais, le puits de manger. Dans la dernière émission, s'il y a des gens qui nous suivent, s'il vous plaît, au moins une personne écoute notre émission. Eh ben, je parlais du cuicui, ouais. Donc plus rose, colibri.
Plus colibri. D'accord.
Moi, j'aime bien les castors, en fait, parce que les castors,
ils
bouffent le bois, et en plus ils vivent dans l'eau, voilà. Et puis
ils font de la charpente.
Voilà, mais ils sont aussi tous les jours hop, ils replongent dans un milieu différent. Tu vois. Ils sortent pour prendre quelque chose et ils plongent dans l'eau. Il y a un rapport entre quelque chose de posé, de structuré, et puis l'immersion qui.
Tout lâcher. Voilà.
Tout lâcher. Et qui vient, qui est refait au quotidien.
Image, ça. Et puis en se déplaçant,
Pourquoi pas. Alors, Bal de Ligny, lui, c'était les araignées.
Ouais, ça, c'est sûr.
C'est ce qui a donné le nom à l'édition L'Arachnéen. Et d'ailleurs.
Et pourquoi les araignées, d'ailleurs, moi, je...
Pourquoi les araignées que c'était. Pareil, sur cette histoire de toile, hein, qu'est-ce qui pousse une araignée à faire une toile? Et comment une araignée commence par faire une toile? Elle sécrète déjà une petite boule de glu. Et finalement, cette petite boule de glu au bout d'un fil qu'elle commence à tisser, cette petite boule de glu emporte l'araignée avec son fil au gré du vent. Et par le plus grand des hasards, l'araignée se retrouve pas un endroit improbable, hein, et c'est à partir de là qu'elle va commencer à tisser sa toile. Alors il y a quelque chose de l'ordre, bien entendu, de la liberté, mais en même temps de la mémoire d'espèce, qui est non pas simplement la mécanique de produire sa toile, mais d'être de la faire, tout simplement, d'agir, c'est-à-dire elle n'a pas de programme, elle n'a pas d'intention de se poser là ou là et de se dire tiens, je vais faire ma toile. Elle se laisse emporter par le vent et elle tisse, et une fois qu'elle a tissé vient prendre au piège.
On a tous un peu, alors toi aussi t'as un peu d'araignée en toi, si on a une mémoire d'espèce dans ce sens là
on doit avoir quelque chose,
on doit avoir un truc. Cherche l'araignée qui est en toi.
Est-ce que Denis, par exemple, il a parlé de son regard sur le cinéma ou sur les films qui
se faisaient.
Il avait
très très peu de liens avec le cinéma, et je pense pas qu'il ait regardé beaucoup de films.
Pas beaucoup.
Il a eu des liens parce que c'est Truffaut qui l'a finalement aidé à faire ce film-là, et je crois qu'il n'avait pas beaucoup. Le peu que je connaisse, en tout cas, il parle pas beaucoup de films, ou de cinéma. Il était très, comme on disait, assez vierge par rapport à tout ça, quoi.
Il a pas beaucoup de.
Il avait son intention, rapidement quand il a fait le film, il l'a lâché, quoi. C'est ça qui est. C'est-à-dire qu'il a jeté cette énergie du film, et des gens se sont mis là, des gens qu'il avait avec qui vivaient, et rapidement il s'est mis en retrait, à l'ombre, et il retournait dans sa petite case-bas à écrire, puisqu'il écrivait il l'a pas monté, et puis il espérait faire une expérience, une plus-value économique, parce que Deligny était soutenu ni par les, pas du tout par les institutions, c'était des, un peu de soutien par ici, par là, puis il voulait se faire un peu de thune avec ce film pour pouvoir encore expérimenter plein de choses et une plus grande liberté et une plus grande sauvagerie. Retrouvez le côté sauvage des oies qui est en vous.
Si vous avez...
Arrêtez de manger du foie de canard. Voilà. Plus pour le bio.
Alors si vous n'avez pas l'argent qu'il faut pour acheter ce très gros livre, donc où sont recueillis l'intégralité ou presque des textes de Deligny, voilà. Alors Lolo peut vous le traiter, mais à condition de faire connaissance avec Lolo. Sinon,
non, il est super. Il y a des textes de tout registre, des bouts de carnet de bord, des premiers bouquins qu'il a écrits.
Si c'est l'araignée qui vous branche, il y a un dernier ouvrage qui est séparé de celui-ci, qui s'appelle l'Arachnéen. Et on vous encourage quand même d'aller surfer un tout petit peu, ou plutôt, je dirais, de faire marcher votre mémoire d'espèce vers la toile, mais celle-là, celle de Dérive, en l'occurrence dans laquelle Dérive est, c'est dérive.tv.com, c'est un site donc extraordinaire sur le cinéma indépendant ou le cinéma tout court.
Ouais,
en tous les cas, à partir de là, vous, ou
le
du moins sur
dépendant.
Ou du moins sur moteur de recherche, vous pouvez taper enquête de cinéma et puis vous trouverez le site de Dérive. En l'occurrence, sur le site de Dérive, vous tapez.
Parce que
tu as
dit au début qu'on avait abandonné indépendant. Hein.
Oui. Ouais. Oui. On n'est plus indépendant là, on est cinéma tout court, effectivement. Ouais. Mais sur le site de Dérive, vous tapez donc Fernand Deligny et vous tomberez sur un nombre de ressources très importantes et passionnantes. Donc, on vous encourage à pour ceux qui ont envie. J'espère qu'on a donné peut-être un peu le.
Envie.
Bon, voilà.
En tout cas, merci Jean-Marie. Hein, normalement, Wahib devait passer, et puis il n'a pas pu passer, mais il vous embrasse tous. Et puis, on se retrouve bientôt le premier lundi de chaque mois, à 21h30. On ne sait pas ce que sera le mois prochain. Et puis, Jean-Marie, on te revoit bientôt. Tu fais une émission
à
mardi.
Bientôt.
C'est quand l'émission à mardi, c'est...
C'est 22h, voilà.
Voilà, Free Poetry avec Bradley et Fabrice Jacques.
Voilà, donc pour ceux qui ne se souviennent pas aussi de la mémoire d'espèce, c'est un petit morceau d'Amnésiaque de Radiohead qui va en train de passer. Et donc on vous souhaite une bonne soirée et puis on vous donne rendez-vous le prochain lundi du prochain mois, premier lundi du prochain mois, donc pour une nouvelle enquête de cinéma. En compagnie de Lotivol, David Yon, Fabrice Copin, et puis d'autres invités. Voilà. On entendait encore un peu les deux oiseaux parler. Là. Voilà, c'est parti. Bon, à très bientôt.
Radio Galère 88.4.